Bienvenue sur Numar. Numar, c'est le podcast de l'art au temps du digital. Nous interviewons des personnalités influentes du monde de l'art qui nous donnent leur vision du numérique dans l'art.
Artiste et scientifique, il a vendu une des premières œuvres générées par l'intelligence artificielle au Grand Palais, avant le buzz qu'on connaît. Il a obtenu un doctorat scientifique en informatique aux États-Unis, a gagné le prix d'art digital au Salon d'automne en 2018, a exposé à l'UNESCO, au Moulin Rouge, à la Galerie 59, dans le Marais. Nous avons l'honneur aujourd'hui de rencontrer Alagraphy.
Bonjour Al, merci beaucoup de nous accorder cette interview. On est ravis de t'avoir pour ce deuxième épisode.
Merci Clémence, je suis ravie aussi.
On voulait savoir ce qu'était qu'un artiste digital et comment pouvait-on le devenir.
Donc l'artiste digital, c'est tout d'abord un artiste qui s'exprime avec des outils informatiques, des logiciels. Ça peut être des outils qu'on connaît comme Photoshop, ou ça peut être aussi des codes, on les appelle aussi des codes créatifs, pour créer par exemple des fractales, pour créer de l'art génératif, de l'art algorithmique. Donc il y a plusieurs catégories sur l'art digital qu'un artiste digital peut faire. Même l'art généré par l'intelligence artificielle, duquel on va parler plus tard, fait partie de l'art digital.
Ok, merci. Peux-tu nous préciser ce qu'est l'art génératif et autres ?
Pour parler de ça, je vais peut-être parler un petit peu de mon parcours, si je peux.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que je viens d'une famille d'artistes, mon père était peintre, mais paradoxalement, il m'a découragé à faire l'art. Et alors, je devais trouver un métier plus stable, et c'était les sciences. Donc, dans mon cas, j'étais toujours en train de chercher des liens entre l'art et les sciences. Ce qui m'a permis d'explorer plusieurs types d'art digital. Ces liens-là, on ne les trouve pas, ce n'est pas par hasard, on doit les construire. Il faut créer en fait des ponts entre les deux domaines. Dans mon cas, quand j'ai commencé, j'ai commencé bien sûr avec la peinture et la photo, ce qui n'était pas très scientifique. Mais ensuite, j'ai commencé un peu à travailler sur un logiciel qui s'appelle GIMP. Donc, c'est la version open source de Photoshop. Et ce logiciel-là, à part cette possibilité de créer, de peindre et de manipuler les images, il a des parties où on peut écrire des codes. Et en fait, c'est là où ça devient intéressant. C'est là où on peut explorer quelque chose qui s'appelle l'art algorithmique. Parce que dans ces codes-là, c'est pour créer des choses qu'on peut créer à la main, bien sûr, mais on peut les automatiser, c'est-à-dire on peut créer le même objet, genre une vingtaine de fois, mais à chaque fois avec une petite variation. Et c'est exactement ça ce qui donne des fractales. Les fractales sont parfois les mêmes images ou objets qui se répètent dans plusieurs dimensions avec des variations. Donc ça, c'est pour l'art fractal. Après, par exemple, dans l'art génératif, c'est pareil. Il faut générer, par exemple, des petits objets, des points, des cercles, et les faire colorer, les faire animer. Et tout ça, on peut le faire, bien sûr, à la main, mais c'est beaucoup plus efficace d'avoir un logiciel ou un code qui le génère automatiquement.
Merci beaucoup. En effet, c'est beaucoup plus visuel, on comprend beaucoup mieux. Est-ce que tu peux parler plus de ton parcours ?
Oui, bien sûr. Alors, comme j'ai dit, mon père était artiste, il voulait absolument que je trouve un métier plus stable, donc scientifique. J'étais toujours passionné par les sciences, surtout les sciences des données, ce qu'on appelle data science aujourd'hui. À l'époque, c'était sciences des données ou informatique. J'étais aussi passionné par les systèmes complexes, donc mon doctorat aux États-Unis. Et donc, en parallèle, j'étais en train de peindre toujours. À l'époque, je peignais avec du café. Et j'ai continué à faire mon doctorat qui n'avait en fait rien à voir avec ce que je peignais. Ma thèse était sur un détecteur de spam qui est inspiré par un système immunitaire. Donc, rien à voir. Mais c'est vrai que j'ai gardé la passion pour l'art, et la peinture, la photo à l'époque et l'art digital, donc, qui a pris de pas mal de un peu d'inspiration, mais aussi de pouvoir de ce que je faisais dans ma recherche. Et ça, c'est venu après, parce que quand j'étais en train de faire surtout mon postdoc en France, et même après, quand j'ai travaillé dans une boîte, j'étais en train d'explorer le deep learning, donc l'apprentissage profond, ce qui est un apprentissage basé sur les réseaux de neurones artificiels, qui fait qu'on peut apprendre le visuel de certains objets et pouvoir en générer des milliers d'autres. Ce système-là s'appelle des GAN, donc les Generative Adversarial Networks. Et ce qui est intéressant, à l'époque, j'ai vu qu'il y avait en date des données d'entraînement qui sont des chiffres. Donc, à partir des chiffres, on peut générer des milliers de chiffres écrits à la main, comme si c'était une personne qui les écrivait. Alors que la machine les génère automatiquement. À chaque fois, c'est écrit d'une façon différente. Le 0, le 2, le 5. Et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser ça pour générer de l'art? Ça, c'était en 2016. Alors, en termes de puissance de calcul, je n'en avais pas beaucoup. Non plus sur le cloud, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, j'ai voulu entraîner sur des œuvres d'art. Ce n'était pas assez. Finalement, j'ai réduit mes données à juste des photos des personnages que j'ai pris en photo pour un projet qui s'appelle 1001 visages. Donc, c'était des photos des personnes en voyageant que j'ai rencontrées et prises en photo de toute diversité. Et ensuite, j'ai généré des milliers des visages des personnes qui n'existent pas. Et c'était les enfants du cloud, générant en 2016. Ensuite, pour créer l'œuvre d'art, en fait, ce n'était pas juste assez de présenter une des personnes comme ça. Donc, je mets ensemble ces visages qui sont un peu cassés, un peu imparfaits, pour créer un grand visage. Et ça, c'était la première œuvre que j'ai réussi à exposer et vendre au Grand Palais, au Salon de Comparaison, en 2018. Bien avant tout le buzz de l'IA. Donc, je le faisais parce que moi, ça me fascinait et c'est tout.
Ok, très bien. Et donc là, tu viens de dire que tu avais été l'un des premiers artistes d'intelligence artificielle à exposer au Grand Palais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette expérience?
Oui, bien sûr. Alors, en 2017, j'étais invité par un ami qui expose régulièrement à un salon très connu d'ailleurs, depuis 50 ans, qui s'appelle Salon Comparaison. Et ça fait partie des quatre salons qui sont présentés au Grand Palais tous les années sous le chapeau de d'Art Capital. En 2017, j'ai été invité pour exposer en 2018. J'avais déjà l'œuvre, je l'ai envoyée, tout ça, c'était fait. Le vernissage était le 13 février 2018. J'arrive un peu en retard, mais pour trouver quelqu'un qui m'attendait devant l'œuvre et qui s'intéressait à savoir c'était quoi cette technique. Et franchement, c'était marrant d'expliquer comment ces personnages étaient créés, de toute diversité, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, pour un collectionneur d'art qui n'a jamais vu déjà l'art digital imprimé de cette façon, parce que c'était un diban qui était un peu en relief, donc qui faisait briller un peu ces petits personnages. Et donc, c'était intéressant des deux côtés, pour moi et également pour le collectionneur.
Et aujourd'hui, avec un peu de recul, quand je pense à mes expositions en 2018, surtout au Salon d'automne et Salon Comparaison au Grand Palais, j'ai été vraiment chanceux d'avoir pu partager une nouvelle forme d'art avec un public qui la voit pour la première fois et qui ça a créé des super échanges très intéressants. Et pour moi, c'était le plus précieux. Donc, même si c'était à l'époque dans un silence médiatique et ça n'a pas eu l'impact que ça devait l'avoir, parce que mettez-vous à ma place, donc je fais ça et ça faisait des années et des années que je travaille dans l'intersection entre l'art et les sciences, donc l'intelligence artificielle et l'art, et 6 mois plus tard vous avez quelqu'un qui vient pour vendre cette idée avec un coup de marketing incroyable. Donc à l'époque, bien sûr, j'étais frustré. Et après, j'ai compris que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Donc il y a deux domaines différents. Il y a l'art et il y a le marché de l'art. Il y a des artistes et il y a des marchands. Donc chacun son domaine, quoi. Donc ces gens-là sont capables de vous faire de avec un coup de marketing incroyable, ils vont vous faire acheter une banane collée au mur ou une œuf cassée ou une tomate par terre pour des millions. Moi, ce que je mets dans mes œuvres d'art, les messages que j'essaie de bien travailler, la recherche derrière et l'impact, ce n'est pas pour le même public. Mes collectionneurs, mes mécènes et bien sûr aussi les investisseurs dans mes installations d'art et dans ma recherche, ce sont des personnes qui recherchent en fait l'histoire qu'il y a derrière et le message et l'impact que ça va avoir.
Peux-tu, s'il te plaît, décrire une œuvre, une de tes œuvres, à quelqu'un qui la voit pas, sachant que c'est un podcast, du coup, il n'y a pas d'image?
En voyant mes œuvres, il y a plusieurs échelles auxquelles on les voit. Par exemple, si on s'approche, on va voir des petits bonhommes, des hommes, des femmes, de partout dans le monde. Et on va essayer de comprendre qui sont ces personnages-là. Parce que ça peut ressembler à quelqu'un qu'on connaît, qu'on a rencontré, qu'on a croisé dans la vie, ou pas. Et si on se décale, si on s'éloigne de l'œuvre, on va trouver encore un autre portrait qui est pixelisé. Mais les pixels, dans ce cas-là, sont des personnages, ces petits bonhommes, les enfants du cloud. Ça, c'est une de mes séries, donc il y a plein d'autres. Mais c'est celle-là, en fait, qui a été la première qui a été exposé comme art généré avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais également c'est une aussi qui a gagné le prix d'art digital au salon d'automne, que pour moi c'est je suis tellement honoré de pouvoir participer et en plus avoir reçu un prix, ça me touche énormément parce que pour les gens qui connaissent un peu l'histoire de l'art, c'est Picasso et Rodin qui ont exposé il y a une centaine d'années. Et je pense que le fauvisme et le cubisme, ils ont commencé par ce salon. Donc, je suis vraiment honoré de pouvoir présenter quelque chose. Comme à l'époque, ils cherchaient quelque chose de nouveau, peut-être un peu de dadaïsme avec des nouvelles technologies. Je peux dire que peut-être j'ai réussi à introduire ça, surtout dans un salon où la curation est encore un peu à l'ancienne. Donc, pour avoir gagné le cœur du jury, ça, c'est pas évident.
Félicitations pour ton travail. Moi, j'ai vu l'œuvre et je la trouve très bien faite. J'invite les auditeurs à se rendre sur ton site ou sur Instagram, à te suivre, à découvrir tes œuvres et quand les expositions et les musées rouvriront, je les invite à te suivre et à suivre ton actualité.
Ah, super. Et si je peux préciser, en plus, le site, c'est alagraphie.com. Instagram, c'est alagraphie ou même Bitopsy. Voilà. Et aussi, je mets pas mal des choses sur Twitter. S'il y a des gens sur Twitter, c'est alagraphie aussi. Super.
On va parler d'un phénomène qui est très actuel, qui concerne les NFT. Mm-hmm. Peux-tu nous dire ce que c'est? Comment c'est fait?
Bien sûr.
Peux-tu nous parler de ce phénomène, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors, les NFT, ça veut dire, c'est non-fungible tokens. Donc, ce sont des tokens qui ne sont pas transférables, qui se trouvent sur des réseaux de blockchain, pour certifier des œuvres d'art comme des transactions, des échanges, des signatures. Par exemple, pour dire que cette œuvre a été créée par telle personne ou a été achetée par telle personne, vendue à l'autre, à tel prix, etc. Donc, si vous voulez, c'est un système pour maintenir l'information Et c'est juste ça. Et avant qu'on l'appelle NFT, ça existait toujours sous le nom de crypto art. C'est juste qu'ils ont fait un peu de rebranding pour le revendre, comme vous savez bien, à leur façon et écrire des articles super invitants à lire. Mais bon, quand ça a commencé, les NFT, si tu veux, ou les crypto art, c'était une très belle promesse pour les artistes pour dire, voilà, maintenant, les artistes vont pouvoir être numérés pour leur art sans passer par des agents, par des galeristes ou des curateurs. Je ne dis pas que c'est toujours la meilleure solution, ce n'est pas évident en fait, mais c'est quelque chose pour dire, on va simplifier. Maintenant, l'artiste peut vendre directement sur la blockchain. Donc, au lieu d'avoir quelqu'un qui collecte ses informations dans le marché de l'art et tout ça, ça va être décentralisé dans des serveurs un peu partout dans le monde qui maintient cette information. Donc, avec cette promesse, il est venu d'autres soucis, on va dire. Parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup des serveurs qui doivent maintenir ces informations. Donc, il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont en train de tourner jour et nuit pour être sûr que cette information ne disparaisse pas. Et du coup, ces ordinateurs consomment de l'énergie. Et s'il y a une grosse, grosse demande, comme on a vu récemment, ça peut être néfaste pour notre planète. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a vu ça comme des mines d'or, des artistes ou pas, d'ailleurs. Donc, tout le monde s'est mis à créer pour pouvoir vendre. Parce que, bon, comme on a vu, c'était pas n'importe quelle vente. C'était des milliards et des millions d'euros pour des œuvres. Et donc, là, quand on lit ça, on a tout de suite envie de s'y mettre, même si c'est pas exactement comme on voit, parce que bon, c'est vrai, on peut créer de l'art, on peut les mettre sur NFT. D'ailleurs, ça peut coûter de l'argent maintenant pour convertir un fichier JPEG en NFT. Et ils ont fait ça justement pour dire, mais ça, c'est le prix de gaz qu'on paye pour tenir les systèmes et pour que ça reste écologique. Après, qu'est-ce qui est fait exactement? Je ne sais pas, on ne peut pas le savoir. Et ce n'est pas transparent. Du coup, moi, je suis pas rentré dedans. J'étais toujours quand même fasciné par comment cette technologie est en train d'évoluer et transformer notre marché d'art. Jusqu'à ce que très récemment, donc il y a quelques semaines, il y a une plateforme qui a été créée sur une autre blockchain. Donc, une blockchain qui est beaucoup plus écologique que la blockchain de l'Ethereum. Donc, cette blockchain est sur le Tezos. Donc, c'est une autre crypto-monnaie. Et cette plateforme s'appelle Hic et Nunc, qui veut dire en latin « maintenant et ici ». Et ce qui est intéressant, c'est vraiment par communauté que ça marche. Et donc, on peut bien sûr être un artiste là-bas, même si on a des œuvres, ça ne va pas apparaître à tout le monde. C'est pas, en fait, comme il y a beaucoup d'artistes qui rentrent dedans, ce n'est pas qu'on va vendre tout de suite ou que c'est des chiffres comme on voit dans les médias. Surtout dans ces blockchains-là, qui sont un peu moins représentées et moins connues. Mais on espère que soit l'Ethereum un jour va devenir écologique, donc ça c'est normalement c'est prévu, soit que ces blockchains, ces petits blockchains comme Tezos, ou il y en a d'autres aussi, par exemple il y a une autre blockchain qui est le NEAR, N-E-A-R, sur laquelle il y a une plateforme de NFT qui s'appelle Paras, il y a une autre qui est, c'est la blockchain de Hive. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle NFT Showroom. Sur le Tezos, il y a également une autre plateforme à part Hic et Nunc qui s'appelle Calamint. Donc, ça commence en fait à grandir et les gens sont en train, et les artistes surtout, sont en train de prendre connaissance de cette nouvelle possibilité qui n'est pas néfaste pour la planète. Voilà. Je ne sais pas, il y a tellement des choses à dire au-dessus que j'espère avoir dit la moitié des choses.
Très clair, encore une fois. Autre question.
Quelles sont tes actualités ?
Alors, si tu veux, ça a commencé en 2020, parce que j'avais plein d'expositions qui étaient annulées dès que la pandémie a commencé et le confinement. À l'époque, en 2020, j'ai exposé, j'ai fait une sorte d'expo de street art algorithmique sur une grande place au Kremlin-Bicêtre. Donc, c'était en collaboration avec la mairie du Kremlin-Bicêtre qui m'a invité et qui m'a mis en place cette installation de chaque œuvre de 2 mètres par 2 mètres. J'ai toujours une œuvre permanente dans le parc Épinel, juste en face de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Et cette œuvre algorithmique de 10 mètres par 1 mètre et demi, elle est une mosaïque algorithmique qui est composée de toutes les photos qui étaient envoyées par des locaux afin de remercier le personnel soignant avec une template ou une photo de l'hôpital. Donc ça, je peux vous inviter à venir la voir, par exemple. Et bien sûr, je suis toujours en train de partager des œuvres digitales sur mes comptes Instagram, Twitter, et je suis en train aussi d'écrire la partie de ma recherche sur Medium. Donc, si vous voulez aussi me suivre sur Medium.
J'ai oublié de te poser une question. Qu'est-ce qui t'inspire ?
Tout ce qui est la nature brute, comme tous les artistes, j'essaie de l'imiter, mais d'une façon qui la rend hommage. Mais franchement, j'adore tout ce qui est authentique et tout ce qui est encore serein. Et ça me touche. Et j'essaye avec les technologies qu'on a, ou même celles qu'on n'a pas vues encore, de reproduire ça d'une manière fiable, que ça puisse aussi toucher des autres personnes. Donc c'est ça un peu mon art, ma mission dans l'art, de partager ce qui m'a touché sans détruire ou sans trop manipuler mes sources d'inspiration, mes muses.
Merci beaucoup, Al, pour cette interview.
Merci, Clémence.
Voilà, l'épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir écouté. Vous trouverez toutes les notes de l'émission sur le site numar.fr. N'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux et plus particulièrement sur LinkedIn et Instagram. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous avez aimé et que vous souhaitez nous aider, nous serions très contents que vous nous laissiez une note et un commentaire sur vos plateformes de podcast préférées. Cela nous permettra d'avoir plus de visibilité. Merci encore et à très bientôt pour un prochain épisode.